Que le nom du Seigneur soit béni. Le sujet sur le couple. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les conflits. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Il y en a des couples dans la Bible. On va en voir quelques-uns, mais on va voir encore certains aspects. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Pardon ? Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Verset 2. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. J'en profite parce que ça, c'est pas dans la prédication, mais il y a certains sujets de conversation qui ne devrait jamais avoir lieu dans la bouche des chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Nous venons de faire quelques lectures. Certaines ont à voir avec le couple, d'autres n'ont rien à voir, si vous voulez, avec le couple. Vous savez que les textes originaux n'étaient pas séparés en chapitre et en verset. La lettre faisait un tout. Et il ne faudrait pas que le fait, pour notre bien, que nous ayons découpé les lettres en chapitre et en verset, nous amène à séparer les choses alors que les lettres comprennent une pensée unique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une même pensée du début à la fin de la lettre. Et si vous avez lu avec moi, vous avez vu qu'il y a un rapport étroit entre le comportement social, familial, conjugal et notre vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est la vie spirituelle? La vie spirituelle, vous comprenez bien que ce n'est pas qu'aller à l'église, prier et chanter. La vie spirituelle, c'est la capacité qui est donnée à l'homme de marcher selon Dieu. Que ce soit dans la famille ou que ce soit à l'extérieur, La vie spirituelle, pour beaucoup de gens, ça c'est l'Église. C'est prier, c'est chanter, c'est servir Dieu dans un domaine particulier de l'Église. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas ça. C'est la capacité qui est donnée à chaque chrétien de comprendre et de discerner la volonté de Dieu dans chacun de ses aspects. Parce que la majeure partie de notre temps, nous la passons où, au fait ? À la maison, au travail, dans les relations humaines. J'en profite pour dire, ce n'est pas une étude sur le travail. Mais les frères et sœurs, le travail, c'est une bénédiction. Aimez le travail. Ne laissez pas le diable détruire les trois quarts de votre temps à cause de cet esprit mondain qui cherche à nous faire considérer le travail comme une malédiction. Le travail, c'est une grâce d'avoir du travail. Mais la majeure partie de notre temps, nous la passons au travail, dans les relations humaines, sociales, à la famille, le couple, etc. Et dans chacune de ces activités, au travail, comment nous nous comportons au travail. Pourquoi serions-nous polis à l'Église et pourquoi serions-nous grossiers ou vulgaires au travail? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui ou non? Qu'est-ce que vous diriez si à l'Église, je fais tout le temps attention à avoir des propos corrects, jamais un mot de trop, et que vous me voyez dans la rue avoir un vocabulaire vulgaire? Vous diriez, cet homme s'y fait du cinéma. On ne peut pas découper la vie spirituelle. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Jésus a dit? On ne prend pas une pièce de drap neuf pour la mettre sur un vieil habit, car ça produit une déchirure. Il prend une autre image, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Écoutez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Si on essaie de faire certaines choses sans avoir été régénéré par la grâce de Dieu, ça sert à rien. Est-ce que vous comprenez? On peut inviter des gens qui ne connaissent pas Jésus à un séminaire sur le couple, on pourrait le faire, mais tant que ces personnes-là n'auront pas été régénérées par la grâce de Dieu, ça ne servira pas à grand-chose parce qu'ils n'auront pas la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Il y a dans la Bible plusieurs passages qui sont adressés au couple et à la vie de famille. Mais si on prend ces versets que sur la famille ou que sur le couple, sans respecter le reste, c'est comme si on mettait une pièce de drap neuf sur un vieil habit, ça va se déchirer, ça servirait à rien. Qu'un chrétien ne pense que à bichonner sa vie de couple sans, en faisant abstraction de tout le reste, ça va pas servir à grand chose. La vie chrétienne, ça fait partie d'un tout. On ne peut pas séparer les choses. C'est important que nous le comprenions. Ce n'est pas parce que vous avez un problème de couple qu'il vous faut focaliser que sur la vie de couple. Il faut prendre considération de tout le reste. Dans la Bible, vous avez plein de familles, plein de couples. Certains sont des couples qu'on peut imiter et d'autres sont surtout à ne pas imiter. Alors, on va en voir quelques couples. Alors, Adam et Ève, ça c'est un couple, le premier couple. Qu'est-ce qu'il a été face ? Il a été face à la tentation. La tentation est arrivée et ils ont chuté tous les deux ensemble. On peut essayer de mettre la faute sur l'un ou sur l'autre. Les responsabilités partagées, ils ont tous les deux chuté à cause de cette fameuse connaissance du bien et du mal. Ils ont été tentés avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme est-il capable de maîtriser le bien et le mal? Il n'y a que Dieu qui peut maîtriser le bien et le mal. Par exemple, l'homme a inventé la poudre. La poudre à l'origine, c'était ça partait d'une bonne intention, c'était pour extraire les ressources minérales souterraines pour pouvoir faire marcher les entreprises. Est-ce que c'était bien qu'on ait découvert la poudre? Vous avez vu à quoi ça servit la poudre? À tuer des millions de gens. L'homme a énormément de mal à maîtriser le bien et le mal. Et c'est vrai que nous, face à la tentation, on a vite fait de croire qu'on peut. Mais mes frères et sœurs, je vous dis cela pour que nous comprenions que sans la grâce de Dieu, nous aurons beaucoup de mal à faire les choses. Lot et son épouse. Qu'est-ce qui manquait à Lot? À Lot, il manquait une véritable expérience avec Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui, hélas, il faut le dire, de chrétiens qui sont comme Lot. Lot marchait avec Abraham. Tant qu'il a marché avec Abraham, ça n'allait pas trop mal. Il marchait avec Abraham parce que lui, Abraham, marchait avec Dieu. Mais c'était là la différence. Il y en a qui marchent avec Dieu et il y en a qui marchent avec ceux qui marchent avec Dieu. Ça arrive souvent. Les jeunes, ils marchent avec leurs parents, ça va bien. On le voit, il y a des étudiants, ils arrivent, Ils arrivent des Antilles ou d'Afrique, ils arrivent et continuent à marcher avec Dieu. La première réunion, ils sont là, ils arrivent à la rentrée, ils marchent avec Dieu, c'est facile. Il y en a, ils arrivent, ils viennent une fois au culte parce qu'ils ont dit à maman qu'ils iraient au culte, mais on ne les voit plus jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait d'expérience personnelle. Et il y a aujourd'hui beaucoup de Lot, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, ils marchent avec Dieu parce que papa ou tonton marche avec Dieu, alors on le suit. Et quand il y a eu la séparation, vous savez ce qui s'est passé, Lot a opté pour le matérialisme, sa femme certainement devait être d'accord, ça fait qu'ils ont tous les deux suivi le même chemin. Et vous savez ce qui s'est passé au jour du jugement, je résume, quelle fin quand même. Hein, connaissez cette histoire, la femme de Lot a rétrogradé, elle s'est tournée, elle a été transformée en statue de sel. Quel drame pour les filles ça a dû être, hein. Quel drame pour les gens qui ont cru que Lot plaisantait. Moi, je crois qu'il y a un temps pour rire, mais jamais avec les choses de Dieu. Jamais. Les deux filles qui sont parties avec Lot, vous savez comment ça s'est terminé ? Franchement, elles ont commis l'inceste. Elles ont enivré leur père. Elles l'ont enivré, lui aussi, franchement. Et après, elles ont commis l'inceste avec lui. Et vous savez que de ces deux enfants qui sont nés, deux épines sont venues dans Israël à cause de ces deux peuples qui sont nés des enfants que Lot a eus avec ses filles. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Voyez, quand on n'a pas fait d'expérience avec Dieu, ça ne va pas bien loin. Quand on se sépare des chrétiens, croyez-moi. Job et sa femme. Job, c'est une autre affaire, face à l'épreuve. Il y a des épreuves dans le couple. Dans tous les couples, il y a des épreuves. Tous les couples. Et ce grand livre de Job nous met devant une situation véritable. Comment allons-nous réagir lorsque l'épreuve va nous frapper, la maladie va nous frapper ? Oui ou non ? C'est est-ce que parce qu'on est chrétien, on ne sera pas touché par la maladie ? Ça ne tient pas debout, ça. Si tu étais chrétien, on ne serait jamais malade. Dites-le quelquefois, vous allez voir. Ouais. La maladie peut nous frapper. Le deuil peut nous frapper. La perte de biens. Job a perdu ses biens. Ouais. La perte des enfants. Est-ce que ça peut arriver, la perte d'un enfant ? Bien sûr, ça peut arriver. La perte de la santé, etc., etc. Les couples sont tous confrontés à des épreuves de tout ordre, et ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on sera épargné de toutes sortes d'épreuves. Quand Job a été frappé par l'épreuve, vous avez vu la difficulté que ça a engendré, parce que Job, lui, avait opté pour une foi qui ne défaillerait pas, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Mais la femme de Job ne l'a pas vécu de la même manière. La femme de Job, elle a tout perdu, tous ses biens, elle a perdu tous ses enfants, et en plus, elle est en train de perdre son mari. La santé de son mari, ça devait être une épreuve difficile. D'ailleurs, si Dieu a fait des reproches aux amis de Job, je vous ferai remarquer que Dieu n'a fait aucun reproche à la femme de Job. Pourtant, elle a été sévère, elle a dit, écoute, maudit Dieu et meurs. Vous savez, dans les couples, il peut y avoir des paroles que dures parfois. Mais je ne pense pas que Dieu nous en tiendra grief forcément. Parce que dans la souffrance, on est parfois amené à dire des paroles que les autres ne pourraient pas comprendre. Il faut faire très attention à la façon dont on dit des choses. Des fois, on ferait mieux de se taire parce qu'on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Mais il y a des choses que l'on dit parce qu'on souffre et Dieu ne nous en tiendra pas rigueur. N'allons pas trop loin quand même. Après, il y a eu la guérison, la restauration. Mais en fait, il y a eu quand même tout un livre qui nous parle de l'épreuve que l'on peut traverser dans un couple. Ananias et Saphira, à eux, s'entendent bien. Ils s'entendent bien, mais pas pour faire le bien. Ils s'entendent bien pour mentir à Dieu. Vous connaissez Ananias et Saphira. Faites attention, mes frères et sœurs. Ne nous entendons pas avec notre femme ou avec notre mari pour faire ce qui n'est pas bien. Allez, chérie, on ne va plus à l'église. D'accord, ça ne sert à rien. Vous voyez ce genre de... D'accord, moi je vais vous dire, il ne vous amènera pas dans la grâce du Seigneur. Prisca et Aquila. Paul dit d'eux, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Prenez compte de ce que Paul dit de ce couple. Prisca et Aquila. Aquila, ça signifie l'aigle. Et Prisca, ça signifie la petite vieille. Prisca ou Priscille. Mais on a vite fait aujourd'hui de taxer de petits vieux, de petites vieilles, les chrétiens qui ont des principes. Vous savez, on a vite fait d'être taxé de petits vieux. Oh, celui-là, c'est qu'il est déjà vieux. Écoutez-moi, bénissez Dieu. Et je peux vous dire que dans l'Église d'aujourd'hui, on a besoin de petits vieux, dans le sens spirituel du terme, des hommes et des femmes qui ont des principes spirituels, qui sont capables de continuer à dire ça non, ça c'est pas bien, ça oui tu peux le faire. Nous avons besoin de repères, nous avons besoin d'enseignements. Le couple est d'autant plus béni qu'on écoute les anciens, parce que quitter son père et sa mère, ça veut pas dire les abandonner et ne plus écouter leurs conseils, croyez-moi. Il y a un lien direct entre la vie spirituelle et la vie conjugale. On ne peut pas séparer les deux. Il faut que nous nous mettions bien ça dans la tête. C'est vrai que l'épître aux Éphésiens se termine par des conseils donnés aux couples, des conseils donnés aux enfants, des conseils donnés aux parents, des conseils donnés aux employeurs, aux employés, et des conseils donnés aux employeurs. Et tous ces conseils que Dieu adresse aux uns comme aux autres, aux maris comme aux femmes, aux employés comme aux patrons, tous ces conseils que Dieu adresse ne peuvent être vécus et compris que si on a réalisé ce qu'il y avait avant. Il y a 6 chapitres dans les Éphésiens. Il y a 3 chapitres qui nous parlent de notre position en Christ et il y a 3 chapitres qui nous parlent de notre comportement. Mais les 3 premiers chapitres, de quoi ils nous parlent? Le 1er chapitre, il nous parle du fait que nous avons un héritage spirituel. Un chrétien, c'est un héritier de la grâce de Dieu. Il leur rappelle leur position. On y est dans les Éphésiens. On pourrait lire juste un verset, à moins que vous ayez déjà perdu la page. Mais regardez, c'est important. On ne peut pas séparer certains sujets. On peut les expliquer. Regardez, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le chapitre 1, nous sommes des croyants, nous avons été régénérés, nous avons été mis à part comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Nous sommes en Jésus-Christ. Le 2e chapitre, j'abrège, c'est sûr. Le 2e chapitre, il y a la présentation du salut par grâce. Paul explique ce que nous étions sans Christ, sans espérance, nous étions perdus. Et Jésus nous a sauvés. Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Au chapitre 3, qu'est-ce qu'il fait? Il développe la notion de l'Église. Il dit quel est le mystère de Christ. Vous savez, un mystère, c'est quelque chose qui a été caché pendant un temps et puis après qui est révélé au monde. Voilà, il y a plusieurs mystères dans la Bible, on ne va pas parler des mystères ce matin, mais il y a le mystère, il parle de l'Église comme d'un mystère. Le mystère de Christ, dans ce chapitre, ça veut dire qu'il a une épouse. Il a une épouse. Et cette épouse, c'est l'Église. Et l'Église n'est pas un bâtiment, un temple, une cathédrale. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont été sauvés par grâce. Ils sont passés par la croix, ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, ils se sont repentis de leurs péchés et ils se sont convertis. Ils sont protestants, ils sont baptistes, ils sont de la dénomination que vous voudrez. Le mystère de Christ, c'est qu'il a une épouse et cette épouse, ce sont des hommes et des femmes qui sont véritablement passés par la repentance. Je dis bien par la repentance, parce que c'est dur à dire, mais il y a beaucoup de gens qui ont pris le baptême qui ne sont jamais passés par la repentance. Ils ont cédé à une pression, je parlais de la pression sur 2 jeunes fiancés pour les pousser à se marier, parce qu'on les a vus se promener la main dans la main, mais on peut exercer une pression sur des gens qui viennent à l'Église pour les pousser à se baptiser, parce qu'on a envie d'avoir des baptêmes, ça fait bien d'avoir des baptêmes, mais je peux vous dire qu'on ne rend pas service à l'Église en poussant des gens à se baptiser tant qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Le mystère du chapitre 3, c'est que Christ a une épouse, et nous sommes son épouse. Après avoir expliqué cela, la position, ce que nous sommes en Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il explique, à partir du chapitre 4, 5, 6, la relation entre mari et femme. Il explique. C'est quelque chose. Le mariage est quelque chose de très sérieux. Le mariage représente le lien sacré qui unit Christ à l'Église. Exactement cela. Vous le savez, presque sur toutes les feuillets de champ, on me demande quel verset je mets. Toutes les feuilles de champ de mariage, j'en ai fait 50 ou 60 mariages depuis que je suis à Sainte-Agne. J'ai presque toujours fait mettre que le mariage soit honoré de tous. Soyons sérieux un instant. Si le mariage n'est pas honoré, comment l'Église sera-t-elle honorée? Vous me suivez? Comment c'est possible? Comment l'Église de Jésus-Christ sera-t-elle véritablement bénie si nos foyers n'honorent pas déjà le mariage? L'un va sans l'autre. Vous savez, si le diable cherche à détruire les foyers chrétiens, c'est parce qu'en détruisant les foyers chrétiens, il détruit l'Église. Il faut pas. Vous le voyez comme moi ? C'est pas plus compliqué. Quand un foyer chrétien est détruit, il a détruit en partie par projection l'œuvre de Dieu. Et ça commence parce qu'il n'y a pas ce souci, une fois qu'on devient des disciples, Jésus l'a dit, faites des disciples et instruisez-les. Il y a beaucoup d'instructions sur le couple, c'est pour ça que nous avons eu à cœur de le partager ensemble, mais le couple c'est quelque chose de sérieux. Quand Paul parle aux hommes, moi j'ai entendu des trucs, ça m'a vraiment pas fait plaisir. Et on a ri dans les églises en parlant de la femme qu'elle doit se soumettre, etc., etc. Moi ça me fait pas rire du tout quand je vois comment ça peut attrister le Saint-Esprit dans les églises. Quand Paul parle aux hommes, il parle soit aux hommes, il parle soit aux femmes, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de compétition. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du diable qui met les gens en compétition. La compétition, ça va dans le sport, ça s'arrête là. Mais l'homme et la femme se complètent. Nous sommes égaux. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Il n'y a pas de différence. Nous sommes égaux devant Dieu. Mais nous sommes complémentaires et nous sommes totalement différents. Il y a des choses que l'homme a et que la femme n'a pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est normal? Oui, ça, heureusement. C'est pareil pour les capacités. Il y a des capacités que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. C'est pas la peine d'essayer de nous mettre en compétition parce que, mes sœurs, vous avez certaines choses que nous n'avons pas et c'est, ne vous vexez pas parce que nous avons des choses que vous n'avez pas. Quand on voit le mouvement féministe, mais non, mais franchement, je veux pas jeter la pierre et sortir de mon sujet, surtout pas. Mais c'est d'une stupidité pas possible. Il faut accepter que Dieu nous ait créés d'une manière différente et que ces différences ne feront que contribuer normalement, si on est intelligent, à notre épanouissement. Les différences ne sont pas pour nous séparer, les différences elles sont pour nous bénir et nous compléter. La Bible d'ailleurs ne parle jamais en termes de comparaison, mais en termes de complémentarité. Nous sommes complémentaires. Et c'est pareil dans une église, nous sommes les uns utiles aux autres, etc., etc. Nous sommes différents. Ne faites pas comme cette sœur un jour qui me dit, moi je ne comprends pas, moi je vais visiter cette femme et personne d'autre va la visiter. Mais je dis, mais les autres, ils vont visiter d'autres. Imaginez-vous s'il y avait 400 chrétiens qui allaient visiter la même personne toutes les semaines. Ça ferait un peu désordre, vous voyez. Et cette sœur ne comprenait pas que Dieu lui avait mis à cœur une sœur. Mais d'autres frères et sœurs vont visiter. Vous comprenez? Il peut y avoir de la négligence, sûrement. Mais ne commençons pas à parler en termes de comparaison et de compétition. C'est comme ça qu'on fait le jeu du diable. Dans le royaume de Dieu, on a chacun sa place, on doit la trouver et on doit exercer ses responsabilités. Le péché, vous savez, c'est la rivalité. Ça introduit la rivalité dans le couple ou dans une église. L'idole de la jalousie qu'il y avait dans le temple d'Ézéchiel, je peux vous dire que ça a fait du dégât, croyez-moi. Quand Dieu dit, par exemple, après la chute à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari. » Moi, j'ai lu des bouquins. Franchement, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. « Tes désirs se porteront vers ton mari. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que c'est normal que les désirs d'une épouse se portent vers son mari, au niveau physique? Mais bien sûr. Mais quand on en arrive à dire que ce n'est pas normal que les désirs existent dans le couple, qu'une femme n'ait pas des désirs au niveau sexuel ou qu'un homme n'ait pas des désirs au niveau sexuel, on en arrive à dire des âneries. Ça n'a rien à voir avec cela. Si on veut vivre comme des frères et comme des sœurs, eh bien, il ne faut pas se marier. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Parce que ça, c'est le bon sens. Et Dieu nous a donné un cerveau et il faut comprendre les choses. Il n'y a pas dans la relation sexuelle la moindre ombre du péché dans le mariage. Il faut le répéter. Il n'y a pas le péché, la moindre ombre de péché dans le couple marié au niveau des relations physiques. Mais quand il est écrit « tes désirs se porteront sur ton mari », ça ne va pas du tout. Parce que ça veut dire qu'à cause du péché, la femme voudra jouer le rôle de l'homme. Tu voudras prendre sa place, tu voudras jouer son rôle. Et l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que la femme veut être de plus en plus masculine et l'homme, hélas, est de plus en plus féminisé. Et ça, ce n'est pas une grosse affaire, croyez-moi. Et ce n'est pas bon signe. pour la société dans laquelle on vit. Tout ça, c'est le péché, c'est la dégénérescence. On peut appeler ça comme vous voudrez au niveau sociologie, au niveau psychologique. En fin de compte, on est tous pareils. Ce n'est pas vrai. C'est un signe de dégénérescence de notre société. Vous lirez Romains chapitre 1 et Romains chapitre 2, et vous verrez que lorsque les hommes commettent avec, entre hommes des choses entre eux, ce sont de l'infamie, c'est de l'infamie. Et pareil pour les femmes. Ce n'est pas un signe d'évolution, c'est un signe de dégénérescence. L'un n'a pas à chercher à jouer le rôle de l'autre. La femme doit être une femme, la mère doit être une mère, le père doit être un père et le mari doit être un mari. C'est le bon sens qui nous l'enseigne, mes frères et sœurs. L'homme doit jouer son rôle. Mes frères, nous avons certainement beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Vous savez, on peut... Les textes bibliques, j'en suis conscient. Une fois, une pastorale avec les pasteurs, on parlait de la lecture plurielle d'un texte. Qu'on peut faire dire plusieurs choses à un texte de plusieurs... On peut y arriver, on peut, vous savez. Mais ça, c'est pas sérieux du tout. Parce que si on utilise un texte n'importe comment, on va moraliser les gens. On va devenir légaliste, intégriste. Je ne sais pas s'il me fallait utiliser ce mot. Alors l'intégrisme, si vous regardez un dictionnaire, on peut intégrer certaines choses dans notre vie. Alors l'intégrisme à ce niveau, d'accord. Si on intègre des principes bibliques dans notre vie, jusque-là, ça va. Mais lorsque nous essayons d'intégrer nos principes et nos convictions dans la vie des autres, ça ne va pas aller. Moi je crois que c'est important de partager ses convictions. Mais mes frères et sœurs, je ne pense pas que le Seigneur va nous bénir si les maris, en tant que maris, essaient d'imposer à leurs épouses ce qu'elles ont à faire, et vice-versa, ça ne marchera pas longtemps. Le piège de l'intégrisme peut menacer nos églises. Et il y a certaines églises qui frisent, et qui sont déjà sectaires, parce qu'on a imposé aux gens qu'ils fassent de telle et de telle façon. On demande aux gens de faire certaines choses alors qu'ils ne sont même pas convertis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça fait qu'après, mais comment voulez-vous qu'ils aient envie alors qu'ils ne le font pas par conviction? C'est pas écrit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. On demande, parfois même à nos enfants, mais je comprends parce que je l'ai fait. Mais je veux dire, ça sert à rien de demander à quelqu'un qu'il fasse quelque chose alors qu'il n'est même pas convaincu qu'il faut qu'il le fasse. On est convaincu quand on est converti. Quand on est converti, on n'a pas besoin de dire à une jeune fille qu'il ne faut pas qu'elle couche avec un gars avant le mariage. Si elle veut le faire, elle le fera. Et elle sait très bien quelque part qu'elle va faire une bêtise. Mais si elle veut la faire, la bêtise, elle la fera. Et ne prenez pas tout sur vous, mes frères et sœurs. Parce que vos enfants ne se convertissent pas, parce que vos enfants n'ont pas choisi d'obéir, vous n'êtes pas forcément responsable. Les gens, ils sont responsables de leurs actes. Jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, je pense qu'il faut tout faire. Mais mes frères et sœurs, ne vous culpabilisez pas parce qu'un de vos enfants n'est pas encore converti. C'est eux qui rendront compte à Dieu lorsqu'ils passeront devant lui. Il peut y avoir l'intégrisme qui rentre dans les églises, dans le foyer. Et d'un autre côté, il peut y avoir le libéralisme, ça on y est en plein dedans, dans beaucoup d'églises. Alors là, le libéralisme, c'est faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. On ne veut pas que les gens partent des églises, alors on laisse tout faire. Faites tout ce que vous voulez. La grâce est là. Dieu pardonne tout. C'est l'amour. Faites tout ce que vous voulez. On l'entend, ça vient de plus en plus. Au nom de l'amour, on laisse faire n'importe quoi. Et tout ça, ça ne rassurera aucun de nos enfants, aucun des ados qui sont partis de l'église, parce qu'en fin de compte, il n'y aura aucune colonne vertébrale, tout sera mou et ça ne sera pas une foi profonde. Les gens seront déstabilisés, il n'y aura rien de solide. Mes frères et sœurs, il faut trouver l'équilibre. Il ne faut être ni légaliste, il ne faut être ni mou, il faut être sérieux. L'évangile, ça donne de l'équilibre. Mais il faut lire la Bible. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne veux pas être sévère. Je ne veux pas l'être inutilement. Mais je vois des chrétiens qui ont 56 ans de conversion. Et des fois, je leur dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous ne l'avez pas lu dans la Bible? Ah non. Qu'on entende ni parole grossière. On l'a lu tout à l'heure, oui ou non? Quand je dis à quelqu'un, mais vous avez été vulgaire, là, vous avez prononcé un mot de trois lettres, ça ne se prononce pas, ça. Ah bon, vous êtes sûr? qu'on n'entende aucune parole grossière. Oui ou non? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait Bac plus 13 ou 15 pour comprendre qu'on n'entende pas de paroles grossières? L'évangile, c'est pas un lavage de cerveau. Dieu ne nous a pas lavé le cerveau. Il nous a lavé le cœur, ça c'est vrai. Mais l'évangile, ce n'est pas un lavage de cerveau. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Combien j'exhorte les parents qui ont des enfants petits là à lire les proverbes. Prenez un dictionnaire, prenez le livre des proverbes et méditez ce merveilleux livre qui est rempli de conseils pour les parents afin qu'ils sachent comment se comporter envers leurs enfants. Vous savez, Dieu nous a donné sa parole. Moi, je suis bouleversé qu'on ait la parole dans notre langue. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ethnies et de nations qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Vous savez que c'est une grâce d'avoir une Bible sur vos genoux, là, dans votre langue, que Dieu ait permis que nous puissions apprendre à lire. Moi, je connais quelques personnes qui ne savent pas lire, et croyez-moi qu'elles en souffrent. Dieu nous a donné sa parole pour que nous arrivions à avoir une vie équilibrée, stable, car lorsque des gens rentrent dans une église et qu'ils voient des gens équilibrés et stables, eh bien c'est une véritable référence. On parlait d'ordre de bienséance. Voilà ce que les gens ont besoin de voir. Nous devons être des sources de bénédiction. Bon, Paul, bien sûr, parle des défauts en prêchant dans cette étude. L'apôtre Paul parle des défauts de l'homme. Quel est le, j'allais dire les, non, on va dire le. Quel est le défaut majeur de l'homme? Doucement, hein, doucement. Alors, avant de rentrer dans une analyse un peu trop compliquée, quel est le défaut majeur de l'homme? Bon, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ceci: aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il en prend soin. On l'a lu? Le Christ prend soin de l'Église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Alors, est-ce que l'homme, à cause de sa nature, soyez indulgente parce que votre tour va venir. L'homme, de par sa nature, je le sais puisque je fais partie de cette catégorie, ne voit pas forcément les besoins de son épouse. C'est vrai ça? Oui ou non? Mais ça, mes sœurs bien-aimées, j'ai parlé tout à l'heure des choses que l'homme n'a pas et que la femme a, et vice-versa. Et quand même, quelque chose qui caractérise, hélas, l'homme, c'est qu'il ne peut pas forcément voir tous les besoins de son épouse. La femme, elle, en plus, ne dit pas tout. Alors, est-ce que c'est bien? La femme, elle aimerait que ses besoins soient devinés. Combien de fois elle m'a dit, mais t'as pas compris? T'as pas réalisé? Tu n'avais pas vu? Non? T'aurais dû voir. Est-ce que je suis le seul à être dans ce même cas? Votre femme vous a jamais dit ça? Qu'un mari vienne me voir, s'il vous plaît. Alors, il y a des besoins qu'on exprime, il y a des besoins, on arrive à les exprimer. Dans un couple, on arrive à dire, tu sais, ça me ferait plaisir, tu sais, ça vraiment, ça, j'en ai besoin. Alors, il y a des besoins qu'on exprime, mais le problème, c'est qu'il y a des besoins qu'on n'exprime pas. Alors, quels sont les besoins les plus importants? Ce qu'on exprime ou ce qu'on n'exprime pas? Et là, on entre dans le vif du sujet, et c'est ça la vérité. Il faut que nous arrivions à exprimer nos besoins parce que, mes chères sœurs, il ne faut pas quand même reprocher à votre mari de ne pas voir chacun de vos besoins. Vous êtes d'accord, mes sœurs, quand même? Faites-moi signe de la tête. Hein? Mes sœurs, écoutez-moi bien. Je parle en tant que mari, c'est sûr que je ne voudrais pas un instant être déséquilibré en ce qui concerne les sœurs. Mais mes chères sœurs, vous qui savez si bien dire les choses, apprenez à dire les besoins que vous n'arrivez pas à exprimer. Ça nous permettra à nous, Marie, de mieux vous aimer. Tout ça est au singulier, bien entendu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est important. Il y a des besoins qu'on exprime, il y en a qu'on n'exprime pas. Il faut arriver à exprimer ses besoins. Vous savez, l'homme, il a des défauts. Il y en a quelques-uns. Hein? Est-ce que l'homme peut être égoïste plus que la femme, par exemple? C'est bizarre, hein? Parce qu'il est fatigué. Il travaille, l'homme. Les frères, je vais essayer d'être le plus intelligent possible. Mais sérieusement, la fatigue, quand même, peut provoquer des comportements égoïstes. Oui ou non? Quelqu'un qui est vraiment fatigué, il va rentrer du travail, il n'aura peut-être pas forcément envie de s'attaquer à certaines choses qui feraient plaisir à sa femme. Moi, vous savez, le jour où mon épouse m'a dit, mais moi je suis tombé des nues pour t'en parler, je peux vous dire qu'on parle. Quand elle m'a dit, tu sais, moi les fleurs, c'est pas trop mon truc. Que tu m'offres un bouquet de fleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais par contre, que tu me fasses une heure de repassage, ça me fera 100 fois plus plaisir qu'un bouquet de fleurs. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai trouvé que c'était mieux offrir des fleurs. C'est plus romantique. Hein? Mais je vous assure, moi, sur le moment, je dis, mais c'est pas possible. Et voyez, comme, pourtant, même dans un couple, on partage, on voit bien qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais il peut y avoir des... Parfois, ce n'est pas parce qu'une fois on est égoïste qu'on est égoïste avec un grand E. Il ne faut quand même pas non plus accabler les gens de reproches. Mais il peut y avoir une attitude égoïste qui s'imprègne de plus en plus. Et ça, quand même, il faut y veiller. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué, justement, qu'on peut ne pas aider sa femme, et vice-versa. Je pense qu'il faut faire attention, il faut s'écouter. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un soit vraiment, vraiment fatigué en rentrant du travail. Mais il peut aussi arriver que ce ne soit pas tant que ça et qu'on puisse aider. Dieu dit aux hommes, et cela, les frères, c'est sérieux, aimez vos femmes. C'est certainement quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Si c'est dans la Bible, on a besoin de l'entendre. Marie, aimez vos femmes. Le Christ aime l'Église, dit ce texte. Et il en prend soin. Nous ne sommes pas le jouet de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une chose pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sa future épouse. Nous sommes sa fiancée. Est-ce que vous croyez que le Seigneur il se moque de nous? Il prend soin de nous. Oui ou non? Le Seigneur, il prend soin de l'Église. Bien sûr qu'on peut refuser des soins. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous soigner. Il prend soin de l'Église. Il ne s'amuse pas avec l'Église. Il la nourrit. Bien sûr que si quelqu'un n'est pas venu ce matin, alors qu'il aurait dû être là, il ne va pas non plus reprocher à Dieu qu'il ne le nourrit pas. Mais il peut être nourri. Nous avons des réunions, nous avons des églises. Quelle grâce de pouvoir être dans des endroits où on peut être nourri. Il prend soin de nous à tous les niveaux. Et ça, c'est un encouragement, mes frères, à ne pas être égoïste. Si le Seigneur prend soin de l'Église, il nous demande à nous, Marie, de prendre soin de notre épouse. Et il fait ressortir les difficultés qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme il dit par exemple au père, de ne pas irriter les enfants. On a lu ça. Père, il ne dit pas aux femmes. Il le dit qu'au père. Est-ce que l'apôtre Paul s'est trompé? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même sensibilité. Nous sommes moins sensibles. Je ne parle pas de sensiblerie, de pleurer parce qu'un chat est écrasé dans la rue, il y a des gens qui pleurent pour ça. La sensiblerie, moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle de sensibilité aux choses spirituelles. La femme est beaucoup plus sensible, il faut dire la vérité. Ça fait que nous, des fois, on peut irriter les enfants. Oui ou non? Je vois mon fils Jonathan qui me fait signe, oui. Donc, c'est vrai, il faut dire, on ne va pas dramatiser, mais c'est quand même la vérité. Les parents, les pères, nous avons souvent commis cette erreur d'irriter nos enfants avec des ordres injustes, peut-être. Enfin, les frères, vous êtes avec moi, les frères? On peut avoir des paroles, des fois, justement, parler de la fatigue, il faut accepter. Mais quand même, si c'est dit, il faudrait peut-être pouvoir parler à nos enfants et dire, est-ce que mes propos t'ont irrité? Il faut arriver à le reconnaître. Ça peut nous arriver, les enfants, vous devez apprendre à pardonner. Les adolescents qui êtes là, vous devez comprendre que vous aussi, un jour, vous serez parents si le Seigneur ne revient pas. Et que vous inquiétez pas, je souhaite que vous fassiez mieux que nous, mais il n'empêche que vous aussi, vous aurez tendance, puisque c'est un principe biblique, à irriter vos enfants. Alors, on va s'arrêter là, on va aller aux femmes. Ça ira plus vite. Femmes, soyez... Non, on ne peut pas en parler trop, parce que je vois que le retour n'est vraiment pas fini. Femmes, soyez soumises. Alors, qu'est-ce que c'est la soumission? Hein? C'était bien qu'on parle des hommes, maintenant on va parler aux femmes. Qu'est-ce que c'est la soumission? La soumission, ce n'est pas de l'esclavage, pour commencer. Croyez-moi. Beaucoup de mal a été fait dans le royaume de Dieu par les hommes avec ce verset, par les pasteurs avec ce verset. Beaucoup de mal a été fait. Moi j'ai entendu, j'avais 6 mois de conversion, j'ai entendu une prédication sur ce texte, « Femmes, soyez soumises ». J'étais scandalisé. Scandalisé. La femme est très différente de l'homme. mais elle a des capacités, elle a une identité différente, etc. Mais dans certains domaines, la femme est beaucoup plus compétente que l'homme. Dans certains domaines, la femme est plus forte que l'homme. Alors quelqu'un va me dire, attendez, il est écrit dans l'épître de Pierre que la femme est plus faible. Alors on va le lire, on va le lire. Ce verset a certainement brisé des femmes. Des hommes ont utilisé ce verset pour briser des femmes, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été intelligents. On parlait des pères intelligents, inintelligents, qui irritent leurs enfants, mais je peux vous dire qu'il y a eu des maris inintelligents qui ont utilisé ce verset pour faire du mal à leurs épouses. 1 Pierre, chapitre 3, verset... Alors, on va lire le verset 7 qui nous intéresse. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme un sexe plus faible. Honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de Dieu. Dans certaines versions, il est dit comme un vase plus faible. Et le vase, c'est l'extérieur. Quand la Bible parle du sexe plus faible, ce n'est pas au sens intellectuel, ce n'est pas au sens psychologique. Je pense que ce n'est qu'au plan physique où Dieu a doté l'homme d'une force physique beaucoup plus forte, mais justement dans le sens de pouvoir faire des choses que la femme ne peut pas faire et aussi dans le sens de protéger sa femme, de la protéger. C'est très sérieux. Il n'est pas dit, Marie, soumettez vos femmes. Il faut en tenir compte. Parce que le vase, de toute façon, c'est l'extérieur. Et je peux vous dire que quand on regarde à l'intérieur, c'est une autre paire de manches. La soumission, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. C'est parfois plus difficile d'aider que de diriger. La femme, elle est sous son mari. Soumettez-vous, ça veut dire être sous, soumis. Je lui ferai une aide. Moi, je pense que Dieu a confié à la femme un rôle très difficile. Celui d'être une aide. C'est difficile d'être une aide. C'est parfois plus difficile de diriger que de conseiller. Est-ce que vous me suivez? Hein? Quelqu'un qui dirige, n'importe quelle société, quelqu'un qui dirige, il a besoin de conseiller. Il a besoin d'être aidé. Et s'il veut rester un bon dirigeant, il faut qu'il écoute les conseils. C'est pareil pour les maris. Si nous voulons devenir de mieux en mieux des maris, il faut que nous écoutions les conseils. Parce que si nous n'écoutons pas les conseils, à la place d'être des dirigeants, de bons dirigeants, nous deviendrons des dictateurs. Un dictateur, c'est quelqu'un qui fait du dirigisme, il n'écoute personne. Tu as beau dire ceci, tu as beau dire cela, ça m'est égal, t'es qu'une femme, soumets-toi. Faut pas s'étonner qu'on arrive à des drames quand on prend les femmes pour des êtres inférieurs, alors que je crois, sans vouloir exagérer, que Dieu a confié aux femmes un rôle très important, celui d'aider. Et je le vois en tant que pasteur, j'ai besoin de vos conseils, je suis souvent conseillé. Ce matin encore, j'ai demandé conseil à un ancien. Et si nous n'écoutons pas les conseils, nous deviendrons des dictateurs dans le couple où nous imposerons à l'autre. Alors il y a des gens qui disent, oh, mais j'ai pas de problème avec mon mari, j'ai pas de problème. Est-ce que vous choisissez? Ah non, je choisis pas, c'est lui qui fait tout. Ah ben c'est sûr qu'à ce compte-là, mais il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a rien. Et c'est vite fait de dire, il n'y a pas de problème. Mais moi je trouve qu'il y en a un et un jour ça craquera. Et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut être intelligent et partager les avis dans une église. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de venir me voir. Quelque chose vous a heurté, quelque chose n'a pas été compris. Vous avez une question, c'est tout à fait normal que dans une église, il y ait des questions à poser, des conseils à donner. On n'est pas là pour faire du dirigisme, justement. On est là pour partager ce que l'on a reçu. Et ça devrait être pareil dans les familles, et ça devrait être pareil dans l'église. Un pasteur, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais je suis persuadé que aider, c'est peut-être plus difficile que diriger. Mais ça, c'est une conviction que j'ai dans mon cœur. Dieu a confié à la femme un rôle très important, être sous son mari pour l'aider. Soumis, ça veut dire être mis sous. Je suis sous mon mari et je le porte. Je ne suis pas tout le temps en train de le dénigrer, en train de le critiquer. Vous savez, monsieur de Dieu l'a regardé à la télévision hier soir. Moi, en rentrant du mariage, j'ai regardé la télé aussi. Je pensais qu'il y avait les infos. Et il y avait un truc, je l'ai vu deux ou trois fois. Oh, c'est peut-être pas très glorieux. Mais je l'ai vu 5 minutes. C'est une émission qui s'appelle Un homme, une femme, je crois que c'est ça. Où il y a un couple là, qui sont tout le temps en train de se chipoter pour des histoires. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non ? C'est quoi le titre ? Aidez-moi. Un homme, une femme ? Non ? C'est ça ? Bon, il y en a qui le savent, vous pouvez le dire. Et à un moment donné, lui, il l'a traité de pentade. Alors ça faisait rire tout le monde. Mais voyez, mon père élevait des pentades. Et une pentade, ça fait que parler, c'est vrai. Oui, c'est bête une pentade, c'est vrai, ça c'est vrai. Et traiter sa femme de pentade, c'est sûr que dans le contexte de l'émission, c'est des jeux de rôle, c'est tout le monde riait. Mais je ne suis pas sûr que la femme, elle doit rire quand on la traite de pentade. Il faut faire attention aux émissions, mes frères et sœurs. Parce que tout est présenté sous le niveau de la rigolade. Hein. Mais si les gens, comme les gens ont besoin de modèles, s'ils vont chercher comme modèle des trucs pareils, ça ne contribuera pas à l'épanouissement des foyers, croyez-moi. Je lui ferai une aide. L'aide, c'est quelqu'un qui va suggérer la bonne idée. Mes sœurs bien-aimées, appliquez-vous comme nous devons nous appliquer. Parce que la Bible dit, demande, honorez, vous avez vu au verset 7, honorez. Et dans la Bible, il nous est demandé d'honorer Dieu, d'honorer les rois. Et Dieu demande aux maris d'honorer leurs femmes. Hier, en rentrant de ce mariage, où je me suis régalé, où tous ces gens qui étaient là ont été touchés vraiment par la grâce de Dieu, je pensais à ce texte, parce que je suis dans ce sujet. Marie, honorez vos femmes. C'est quelque chose. Mais mes sœurs, soyez des aides, aidez vos maris. Donnez-leur le bon conseil. Ne faites pas comme Jézabel. Vous savez Jézabel, comment elle a conseillé son mari ? Lisez la Bible et vous verrez comment elle a conseillé son cher Akab. Et vous verrez. Et Akab, lui qui était faible, il a écouté le mauvais conseil de sa femme. Parce qu'il faut faire attention, quand on donne un conseil, il vaut mieux peut-être attendre quelques jours avant de s'y soumettre. Des conseils, c'est bien de les prendre auprès de son épouse, c'est bien de le prendre auprès de personnes intelligentes qui sauront ne pas vous conseiller sentimentalement, émotionnellement, parce que les gens souvent, ils sont gentils, mais ils ne sont pas compétents. Et des fois, on préfère aller voir les gens gentils que les gens compétents. Parce que les gens compétents, ils vous diront ce qu'ils pensent. Il y a une sœur un jour qui est venue me voir, elle m'a dit, monsieur, je ne suis pas venu vous voir parce que j'ai préféré aller voir le mécanicien pour lui demander conseil. Sérieux, c'est vrai ça. J'ai dit, mais il est chrétien, le mécanicien ? Ah non, non, non. Ah d'accord, oui, écoutez. Non mais, c'est un conseil spirituel. Je pense qu'elle a fait erreur. Par contre, si vous avez un problème de mécanique, ne venez pas me voir. La soumission, je suis sous mon mari, et je suis avec lui, et je le soutiens. Il n'y a rien de méprisable, il n'y a rien de rabaissant, c'est une bénédiction. La femme, elle aide son mari, elle est là sous son mari, elle le conseille, et elle le soutient. Mes frères et sœurs, soyons simples, et écoutons les conseils que Dieu donne à la femme, écoutons les conseils que Dieu donne à l'homme, etc., pour que nous comprenions les choses. D'ailleurs, si je me suis autorisé, on y revient quand même, au niveau de la soumission. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre tous les conseils dans des tiroirs. Éphésiens 5, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous est dit en vérité ? Et c'est dans le domaine de la vie de l'esprit. C'est dans le domaine de la vie de l'esprit. Regardez bien. Tout ça, ça se touche. Il y a la même pensée. J'ai dit ça au début de la prédication. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Tout va ensemble. Le spirituel, le social, etc. Et il nous est dit, dans la vie de l'esprit... Verset 21 du chapitre 5, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Parce que moi je dis qu'un homme qui dit à sa femme, « Écoute, tu te tais, je vais être un petit peu juste, tu la fermes, c'est moi le patron, tu te soumets parce que la Bible dit, écoutez, je comprends que cette femme-là va avoir beaucoup de mal à se soumettre. Et qu'elle pourra peut-être lui dire, « Écoute, toi quand tu m'aimeras comme Dieu te demande de m'aimer, peut-être je commencerai à me soumettre. » C'est peut-être pas un bon combat qui s'installe, mais ça quand même, ça nous permet de comprendre que quand même les femmes ne sont pas des objets. Et mes frères et sœurs, par pitié, ne prenez jamais des versets pour vous imposer. Je pense que le meilleur témoignage, il est par ce que l'on vit et pas par ce que l'on dit. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si on est rempli du Saint-Esprit, c'est dans le cadre d'être rempli du Saint-Esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, ça ne devait pas poser de gros problèmes de se soumettre les uns aux autres. Oui ou non ? Très sérieusement. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Ça fait 10 ans que je travaille dans le conseil d'administration. Et je peux vous dire que ce verset, pas un peut se lever et dire « c'est pas vrai ». on travaille exactement dans cet état d'esprit, nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de fait, il n'y a pas à faire, on se soumet les uns aux autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas détacher le spirituel du couple, le couple du travail, etc., etc. Être rempli du Saint-Esprit permettra aux épouses d'être une aide et une bénédiction pour leur mari. Être rempli du Saint-Esprit permettra aux maris de s'appliquer à honorer leurs épouses. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Je vois que le retour, je poursuivrai mardi cette étude. Mais mes frères et sœurs, la capacité de tenir son rôle dans le couple, soit de mari ou soit de femme, dépend de la vie de l'Esprit. Et si le Seigneur Jésus dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est peut-être sur ce sujet qu'il faudrait d'abord s'appliquer. Parce que si ça devient de la morale, il faut que j'aime ma femme. C'est vrai, j'ai compris ce matin. Bon, je vais aimer ma femme. Je vais aimer ma femme. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Je t'aime, chérie. Je vais t'envoyer un SMS tous les matins et un mail tout le midi. Si ça devient de la morale, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous me suivez ce que je veux dire? Il faut que je l'aime, il faut que je... Écoutez, ça serait... Si la prédication était perçue comme ça, je pense que ça n'irait pas du tout. Mais s'il y a la vie de l'esprit, s'il y a le fruit de l'esprit, l'amour n'est-il pas le fruit de l'esprit? Est-ce que c'est écrit? Soyez remplis du Saint-Esprit. Et je le répète, parce que ça c'est quelque chose que j'ai peut-être très mal expliqué. Je pense que parfois, quand on prêche, on est pris par le temps. Et on n'explique pas certaines choses. Mais la vie de l'esprit, ce n'est pas que le parler en langue. Vous savez, je suis souvent obligé de reprendre des situations. Les gens parlent en langue, et c'est bien, il faut parler en langue. Il faut parler en langue, il faut prier en langue, parce que c'est biblique. Mais ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est vraiment rempli du Saint-Esprit à fond. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est bien les dons spirituels. Merci Seigneur pour les dons spirituels. Et que ceux qui en ont reçu dans l'Église se mettent à les exercer, parce que certains vous en avez reçus, vous ne les exercez pas. Mais le fruit, c'est merveilleux. D'ailleurs, Jésus a dit, on reconnaît un arbre au fruit, et pas aux feuilles. Et si nous mettons la vie de l'esprit dans notre couple, quelle grâce pour se soumettre les uns aux autres. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si les foyers sont bénis, l'Église sera incontournablement béni. Nous ne pouvons pas marcher seuls, nous devons avoir un Seigneur qui est avec nous, qui marche avec nous, qui nous conseille. Quand je vois certains païens qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent me voir pour avoir des conseils pour leur couple, je dis quand même, c'est vrai, hier encore au mariage, quelqu'un est venu me voir, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a été serré et touché par la prédication, d'accord. Mais cette personne est venue me voir pour demander des conseils. Et quand je vois des fois que dans le royaume de Dieu, nous les chrétiens, nous ne sommes pas capables de chercher les instructions. Jésus a dit, faites des disciples. Tout à l'heure, on a chanté, viens, sois mon guide, dans le cantique. Comment je peux être un mari qui va faire des progrès, un couple, une femme qui va faire des progrès, si je chante ça et que je ne le vis pas? Viens, sois mon guide. Et ça passe, on le verra mardi, ça passe énormément par la communication. C'est important, je n'ai pas le temps d'en parler parce que le retourne. Mais j'aimerais qu'on termine en chantant un cantique et en demandant à M. Olé de venir au pupitre pour prier pour les couples. Parce que je ne voudrais pas que cela soit mal perçu. Mes frères et sœurs, nous avons tous des progrès à faire. J'espère que vous voulez faire des progrès dans votre foyer. Les jeunes qui n'êtes pas mariés, je vous le redis. Ne vous mariez jamais avec un feignant et un paresseux. Jamais. Vous entendez? Moi, je vous le dis vraiment. Au Festival de Cannes, on m'a dit, vous connaissez tel acteur? J'étais pas au Festival de Cannes, hein. Mais pendant la période du Festival de Cannes. J'ai dit non. Ah bon, vous connaissez? J'ai dit, vous savez, ça me fait pas grand-chose. Par contre, il y a quelqu'un que je connais. Et celui-là, je le connais bien. Il est bien des noms que j'ignore, c'est pas grave. Mais il y a un nom que l'on connaît, mes frères et sœurs. C'est le nom de Jésus, qui nous permettra d'avoir des foyers bénis, une église bénie. Et mes frères et sœurs, travaillons à cela. Monsieur Olé va prier pour cela. Des fois, on demande des convictions de péché. Mais comment il va y avoir des convictions de péché si dans les foyers, on se querelle? On va venir à l'église, Seigneur, bénis l'église. Mais Dieu bénira l'église, moi je vous le dis. si dans les foyers on prie, si dans les maisons on rend grâce, si dans les maisons il n'y a pas de vulgarité, pas de grossièreté, si dans les maisons il y a la grâce de Dieu, quand tous les couples vont venir à l'église, il y aura la grâce de Dieu. Mais ne faisons pas du cinéma, si on se dispute à la maison et qu'à l'église on est tout mielleux, il va falloir quand même qu'on change de fusil d'épaule. Il faut qu'on soit pareil à l'église et qu'on soit pareil à la maison. Voilà, on va se lever. Monsieur Oulé, s'il vous plaît, venez prier pour les couples et toutes les familles et tous ces jeunes, parce que je crois que ce qu'on partage, c'est beaucoup plus sérieux que ce que l'on pense par rapport à l'enlèvement de l'église et par rapport au retour du Seigneur Jésus.
Seigneur, nous voulons en effet te bénir et te louer pour la grâce qui nous a été révélée personnellement, pour la grâce qui abonde, qui surabonde en bénédiction pour chacun des cœurs, chacune de nos âmes. Lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur, Seigneur, tu y déverses ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui ne peuvent pas venir de la nature humaine. Merci, Seigneur, parce que les uns et les autres, hommes ou femmes, tu nous as révélé ta bonté, et c'est dans notre situation personnelle et particulière que tu veux manifester l'action bénie de ton esprit dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos foyers, dans notre environnement aussi. Déverse ton esprit avec abondance en nous-mêmes, Seigneur, afin que nous puissions avoir cet amour de Christ, cet amour que Christ a exprimé, qui dépasse notre intelligence, mais qu'ainsi l'action de ton esprit dans nos vies, à chacun de nous, puisse aussi révéler ton amour aux uns et aux autres, personnellement, dans le cadre familial, aux enfants qui grandissent dans ces foyers, qu'ils puissent avoir l'exemple d'une action effective de ton esprit. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir aussi autour de nous et dans notre voisinage un témoignage qui n'est peut-être pas en parole, mais qu'il puisse reconnaître l'action efficace et véritable de ton esprit dans nos vies. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, bénis chacune de nos familles, Seigneur, et que tu puisses ainsi être pleinement glorifié, que nous puissions nous réjouir, Seigneur, de recevoir de toi l'assistance dont nous avons besoin, chacun dans notre responsabilité familiale. Merci pour toutes tes bontés. Amen.